suivez ce podcast, vous en avez compris le concept. Découvrir et faire découvrir des musiques et des artistes grâce à mes potes. Un terme que j'emploie dans un sens extrêmement large. Je vous renvoie au premier épisode pour connaître la définition que je me suis permise. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. À force d'interviewer mes potes sur leurs goûts musicaux, j'ai commencé à nourrir une certaine jalousie. J'ai bien vu dans leur sourire et leur œil pétillant tout le plaisir qu'ils éprouvent à partager un espace sonore qui a compté à un moment de leur vie, qui les a accompagnés, qui les a nourris, éduqués. Alors, je me suis dit que je profiterais bien de la pause estivale pour passer de l'autre côté de la barrière et proposer à mon tour un album. Un auto-épisode en quelque sorte. Je vous emmène donc à une période de ma vie riche en ouverture musicale, à un âge où le jeune Eric, plus tout à fait adolescent mais pas encore pleinement adulte, a accepté d'écouter de nouvelles choses malgré ses a priori et ses idées toutes faites, c'est-à-dire des idées un brin stupides. Aujourd'hui, dans des potes et des albums, il sera question du Live After Death de Iron Maiden. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, juste, je vais faire un petit panorama de ce que j'écoutais à l'époque. À l'époque, j'écoutais énormément de chansons françaises. Alors j'avais un peu les fers de lance du genre. C'était les Goldman, les Cabrel, les Michel Berger, Maxime Le Forestier, tout ça. J'écoutais énormément ça. J'écoutais aussi, on était au milieu des années 90, deuxième partie des années 90. Donc il y avait ceux qui arrivaient doucement, San Severino, Vincent Delerme, un petit peu après Benabar. J'étais beaucoup là-dedans. J'écoutais un petit peu de jazz aussi. Et puis c'était à peu près tout. Et il se trouvait qu'à l'époque, j'avais une forme de mépris pour le heavy metal, pour les musiques un petit peu violentes, à l'exception de Nirvana et Rage Against the Machine, qui me plaisaient plutôt, mais que j'écoutais avec une sorte de plaisir coupable. J'avais un peu cet état d'esprit du bon élève, du gentil petit garçon bien éduqué, qui avait cette image un petit peu dégradée de tout ce qui était heavy metal, hard rock, les musiques un petit peu violentes. En fait, je voyais aussi les élèves de ma classe qui écoutaient ce genre de musique avec des looks assez différents du mien, avec mon esprit un peu étriqué. Je voulais pas trop m'identifier à ce genre de camarades non plus. Voilà, j'étais très jeune. Fin de la parenthèse, fin de l'auto-flagellation. Et une fois le bac en poche, je commence mes études et dans ma promo, je fais la connaissance d'un personnage. C'est vraiment un personnage qui s'appelle Sylvain. Alors, un personnage parce qu'il était habillé toute l'année de la même façon, c'est-à-dire des Santiago, des jeans troués et uniquement des t-shirts d'Iron Maiden. Je l'ai jamais vu habillé avec autre chose que ça. Alors, il se trouvait qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs et dans cette promo, on était les deux seuls chevelus. Donc, a priori, on s'est trouvé tout de suite un point commun et il se trouvait aussi qu'on était tous les deux guitaristes. Donc, on a vite parler musique. Mais il a été horrifié par mes goûts musicaux personnels et il m'a assez vite pris en main. Il m'a dit « Bon, il faut vraiment que tu écoutes autre chose, c'est pas possible. » Donc il m'emmène chez lui pour me faire découvrir de nouvelles musiques et j'accepte. Et là, chez lui, je découvre une armoire remplie de cassettes pirates. Alors on est fin des années 90, donc il y avait encore les cassettes audio magnétiques. Il n'avait pas de CD du tout, il avait que des cassettes et que des cassettes repiquées. Il en avait, je pense, plusieurs centaines, facilement. Ouais. Il y avait là-dedans beaucoup de groupes célèbres, hein, donc Iron Maiden, on va y revenir, mais aussi Megadeth, Motorhead, Metallica, et il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient peut-être moins mainstream, des choses plus confidentielles, plus dures à écouter, beaucoup plus violentes aussi. Donc voilà, je passe un bout d'après-midi avec lui, je fais mon petit marché et je repars avec ce qu'il considérait être la base à connaître pour entrer dans le métal. Voilà, donc il m'a dit voilà, ça il faut absolument que t'écoutes, ça c'est incontournable, voilà, prends ça. Donc je repars avec une grosse dizaine de cassettes et je passe plusieurs heures à écouter tout ça. Et très vite, Iron Maiden va s'imposer à mes oreilles comme un groupe incontournable. Là, je suis tout de suite happé par leur mélodie des chansons, la virtuosité discrète des musiciens. Alors, virtuosité discrète au sens où c'est pas une virtuosité d'ego, hein. On en a parlé un petit peu dans un épisode précédent. C'est vraiment toujours une technique qui va servir les chansons pour les rendre plus intéressantes, plus jolies. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la bonne humeur qui se dégage de ce groupe, la joie de partager ce qu'ils aiment, la joie de vivre qui dégage. Et le CD dont il est question aujourd'hui, l'album pardon dont il est question aujourd'hui, le Live After Death, eh ben en fait, je m'achète le CD assez vite et l'année qui suit, j'écoute, je pense des dizaines de fois. Et voilà, et ça a été le premier album d'une très longue collection à propos de ce groupe. Je vous en passe tout de suite un premier extrait, c'est le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Access High. Donc le morceau qui ouvre le Live After Death de Iron Maiden. Alors on l'entend tout de suite, hein, le son est très propre, on entend vraiment distinctement tous les instruments. C'est pas un métal qui est si violent que ça, hein. Quand on écoute, il y a des groupes beaucoup plus violents que ça, et ce qui est intéressant et qui m'a plu dès le début, c'est l'aspect mélodique de ce groupe. Alors la guitare, on l'entend, la guitare mélodique, elle suit le chant ou bien elle joue un contre-chant, c'est pas tout le temps des accords plaqués, c'est un jeu qui est un peu plus subtil que ça. Et puis aussi le jeu de basse très tendu, hein, du bassiste, voilà. C'est du heavy metal old school, hein, voilà, là on est dans les années 80, ils sont vraiment dans le genre de l'époque. Je vais faire une petite présentation rapide du groupe. Alors, c'est Iron Maiden, c'est un groupe qui remonte à l'année 75. Donc, ils ont quasiment 50 ans d'existence. Ils sont toujours en activité, d'ailleurs. Alors, ils ont été le fer de lance d'un mouvement qu'on appelait la New Wave of British Heavy Metal, parmi lesquels il y avait aussi Judas Priest, Def Leppard. C'est aussi des, voilà, peut-être des... Alors là, on entend mon chat, je ne sais pas si... voilà, ça fait un petit clin d'œil rigolo à ce podcast. Donc la New Wave of British Heavy Metal, c'est un mouvement dans les années 80. Alors c'est pas un mouvement concerté, hein, c'est un terme journalistique, et c'est un mouvement qui prend corps en pleine vague punk au début des années 80 et qui s'inscrit dans une espèce de mode de résistance par rapport au déclin des groupes précurseurs du heavy metal comme Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Donc les punks à l'époque avaient un petit peu balayer ces vieux groupes. Eux, ils voulaient un rock beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, et les groupes comme Iron Maiden, eux, voulaient revenir à quelque chose de très composé, avec des musiciens très bons techniquement, des structures de morceaux intéressantes. Et donc le style d'Iron Maiden, c'est un hard rock qui est très mélodique, qui est assez peu agressif pour du métal, donc finalement assez accessible à ceux qui connaissent mal le genre et qui aimeraient le découvrir. Ils ont aussi un côté rock progressif qui est très intéressant, c'est-à-dire avec des structures de morceaux un peu plus évoluées que le format couplet-refrain, avec des troisième partie, des ponts, avec à chaque fois des parties solistes, instrumentales, et ce qui en fait finalement des morceaux assez intéressants, du moins à mes oreilles. Alors le line-up du groupe a assez évolué jusqu'au début des années 80, et s'est à peu près stabilisé voilà avant 82-83. Mais il y a peut-être eu pas loin d'une quinzaine de musiciens avant ça, avant qu'ils se stabilisent. Alors il y a deux musiciens qui sont très importants pour moi, qui sont les piliers du groupe, le bassiste Steve Harris et un des guitaristes s'appelle Dave Murray. Alors un premier mot sur Steve Harris, le bassiste et fondateur du groupe. Moi, j'ai un immense respect pour lui en tant que musicien et en tant qu'homme. Il est bassiste en fait parce qu'à la base, il voulait être batteur. parce qu'il était plus intéressé par l'aspect rythmique. Bonjour le chat. Il voulait être batteur parce qu'il était beaucoup plus intéressé par la rythmique que par l'aspect mélodique des choses. Mais par manque de place chez lui et par manque de budget, parce qu'il vivait dans une famille assez pauvre, il n'a pas pu avoir de batterie, donc il s'est mis à la basse, qui est finalement l'instrument qui se rapproche plus de la... enfin, qui est dans la section rythmique des groupes, donc c'est cette dimension qui l'intéressait. Lui, c'est vraiment le leader du groupe, hein. Il a composé près de 80% des titres, paroles et musique, et c'est lui qui a toujours donné les orientations stylistiques du groupe. Ce qui est intéressant, ce qui est très respectable à mes yeux, c'est qu'il a très tôt eu une vision à long terme pour son groupe. Entre 75 et 78, hein, date à, 78 c'est la date de leur premier album, il a fait en sorte que aucun des membres du groupe, lui compris, ne touche d'argent, des cachets après leur concert. Mais en fait, il voulait que l'argent soit constamment réinvesti dans du matériel de scène, des éclairages, de meilleurs instruments, pour pouvoir améliorer le groupe, pour avoir un meilleur son, pour avoir une meilleure tenue de scène. Et ils ont même, à un moment, eu assez d'argent pour acheter un van qui leur a permis d'aller jouer plus loin qu'autour de chez eux. Ils avaient une vie comme ça pendant 3 ans, où ils avaient tous arrêté leurs études, hein, ils travaillaient à l'usine pendant la semaine, et le week-end, ils allaient faire leurs concerts. Ils ont fait ça pendant de nombreuses années, avec beaucoup d'abnégation. Donc finalement, Steve Harris, il a eu une approche professionnelle dès le début, hein, dès que même sans contrat et tout ça. Et c'est très intéressant, je trouve. Dès qu'un membre se mettait un petit peu à déconner avec la drogue ou des abus d'alcool, il prenait ça en main, quitte à virer les groupes dès qu'ils étaient incontrôlables, de manière à garder le groupe vraiment concentré sur la musique et tout ça. Donc voilà pour Steve Harris, un personnage vraiment très important, très respectable à mes yeux. Le second, c'est Dave Murray, c'est un des guitaristes du groupe, qui est à l'origine du groupe avec Steve Harris, qui est très discret. Alors c'est quelqu'un, un musicien très technique, très mélodique, vraiment généreux avec le public. C'est vraiment le lieutenant fidèle, hein, voilà, discret, efficace. Et quand on le voit jouer, il fait vraiment plaisir à voir. Il communique vraiment avec son public. C'est toujours très agréable à voir et à entendre. Le deuxième extrait maintenant que je voudrais vous passer, c'est une chanson qui s'appelle « 2 Minutes to Midnight ». Minutes to Midnight de Iron Maiden sur le Live After Death, un album live de 1985. Alors on a finalement le même genre d'impression que pour le premier titre. Alors c'est vrai qu'il faut pas se voiler la face, hein, on a un genre bien défini, donc on va être assez peu surpris d'un titre à l'autre. On va retrouver un petit peu toujours les mêmes ingrédients, mais qui sont toujours très bien faits à mes oreilles, toujours très agréable. Alors, Live After Death, donc je le disais, il sort en 1985, c'est un live qui fait suite au 5e album du groupe, et les enregistrements sont tirés de plusieurs concerts à Long Beach, en Californie, au milieu d'une tournée mondiale qui est assez gigantesque. À l'intérieur de la pochette, ils ont mis la liste de tous leurs concerts sur la tournée, quelque chose qui a duré plus d'une année, je crois, et une tournée fleuve. Iron Maiden, ils ont une particularité qui est un petit peu discutable pour moi, qui est de sortir énormément de live. Ils ont sorti 17 albums et 13 live, c'est-à-dire quasiment à un moment donné, après chaque album, ils faisaient une tournée et ils sortaient un album live, ce qui fait qu'on a des disques finalement assez répétitifs et pas forcément intéressants. C'est une dimension commerciale que je trouve un petit peu contestable, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'est pas forcément obligé d'y adhérer. Alors, 1985, donc c'est une période pour la musique et du métal en particulier, qui d'un point de vue visuel porte à rire maintenant. Hein. Et si on regarde des images de l'époque, hein, le Live After Death existe aussi en DVD, et puis on peut voir beaucoup d'images de live de cette époque. Et alors visuellement, c'est assez risible maintenant. Hein. Cheveux longs bouclés, des leggings et des baskets, un bandeau dans les cheveux, du fluo. Voilà, donc maintenant on aurait du mal à céder à la moquerie. Mais voilà, c'était comme ça, c'est facile de juger avec le recul. Alors à propos de visuel, ce qui est intéressant, que j'aimerais en dire deux mots, c'est les pochettes des albums d'Iron Maiden. Ce sont des pochettes assez intéressantes qui sont toutes signées par un dessinateur qui s'appelle Derek Riggs, et qui a travaillé avec eux sur la quasi-totalité de leurs disques, à l'exception du dernier ou des deux derniers, je crois. Donc il y a un style qui est très identifiable, et à chaque fois, ça met en scène un personnage que le groupe a nommé Eddie. C'est une sorte de squelette mort-vivant qui est mis en scène dans un décor glauque qui fait très vieux film d'horreur. Alors oui, c'est très violent, mais en même temps, c'est très mis en scène avec un côté caricatural, surjoué, beaucoup de second degré. Et finalement, cet aspect violent est pas forcément en adéquation avec la musique qu'on va écouter à l'intérieur. En tout cas, moi, à l'époque, c'est ce qui m'avait surpris. C'était de voir à quel point on pouvait ne pas avoir la même impression visuelle quand on voyait les pochettes et auditive quand on écoutait la musique. Donc, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est d'aller un petit peu au-delà de nos préjugés et d'aller mettre les mains dans le moteur. Voilà pour cette parenthèse, je vais tout de suite passer à un troisième extrait qui s'appelle The Trooper. Alors dans cet extrait, notamment dans l'introduction de ce morceau de Trooper, il y a un élément qui est très intéressant musicalement et qui est typique du jeu d'Iron Maiden. Alors pas que, mais eux en particulier. C'est les parties instrumentales à la guitare harmonisées à deux guitares. Alors si on écoute ça sur une chaîne hi-fi ou encore mieux avec un casque, on entend distinctement une guitare dans chaque oreille et il y a toujours un des guitaristes qui va jouer une mélodie et le deuxième qui va jouer la même mélodie mais harmonisée une tierce plus haut, une quarte ou une quinte plus haut. Voilà, c'est des termes qui parleront aux musiciens. Et donc ils jouent pas les mêmes notes et ça donne harmoniquement et spatialement parlant quelque chose de très intéressant sur la composition des morceaux. Et ça, Iron Maiden, ils l'utilisent énormément. Ils font des contre-chants comme ça avec leur solo de guitare. Pas tout le temps, hein, mais assez souvent, et aussi les guitares par rapport à la ligne mélodique du chant. Alors le The Trooper qu'on vient d'entendre, c'est une chanson qui parle de la guerre de sécession aux États-Unis. Je reviendrai un petit peu sur les paroles tout à l'heure, assez rapidement. Voilà, ils se sont souvent inspirés de faits historiques pour leur chanson, et donc The Trooper en fait partie. J'aimerais maintenant dire un mot du chanteur Bruce Dickinson. Alors il faudra un petit peu plus qu'un mot parce que ce monsieur est un monstre. Pourquoi ? Parce que à côté de sa carrière de musicien, il a aussi eu une carrière de pilote de ligne, rien que ça, donc une pilote de ligne dans une compagnie charter anglaise qui s'appelle Astraeus. Donc voilà, entre deux tournées où il n'enregistrait pas des albums en studio, eh ben il allait faire le pilote de ligne. Alors un vrai pilote de ligne, pas un pilote de ligne d'opérette et de pacotille. Mais c'est pas tout, il a également été escrimeur, il a fait partie de l'équipe anglaise au championnat d'Europe de 1989, hein, donc il a eu une carrière sportive internationale. Quand il a pris sa retraite sportive, il a créé une marque de matériel d'escrime. Mais il a aussi été animateur de radio, il est romancier, il est sculpteur, Il a aussi une carrière solo reconnue en tant que musicien. Donc il a fait une parenthèse d'Iron Maiden dans les années 90. Voilà. Alors voilà, je sais pas quand il dort. Alors pour moi, le plus énorme pour Bruce Dickinson, c'est que quand ils ont fait leur tournée en 2008, le groupe et son équipe ont acheté un Boeing 757. Ils l'ont peint aux couleurs du groupe, hein, avec leur mascotte Eddie, donc ils ont appelé l'avion Air Force One. Et c'est Bruce Dickinson lui-même qui pilotait l'avion de destination en destination pendant leur tournée. Voilà, la grande classe, monsieur Bruce Dickinson. Alors il y a aussi un musicien que j'adore dans ce groupe, c'est le batteur Nico McBrain, qui est dans le groupe depuis 1982. Alors ce qui est assez notable, c'est que Iron Maiden et Trust, à l'époque, le groupe Trust français, groupe de rock, ils ont échangé leur batteur. Donc Nico McBrain était batteur de Trust et il est venu chez Maiden en 82. Alors lui, c'est le foufou de la bande. Hein. Quand on le voit jouer, lui, il fait vraiment plaisir à voir, joie de vivre. Il a le sourire tout le temps, il joue pieds nus, il joue torse nu, il en fout de partout. Il est vraiment très chouette à voir. Dans le milieu des batteurs, il est surnommé la pieuvre. Alors pourquoi ? Parce qu'il, comme beaucoup de batteurs de heavy metal, il a une batterie monstrueuse avec des dizaines et de cymbales, de tomes, il en met partout. Mais c'est, au dire de certains batteurs, c'est un des rares à se servir absolument de tout. Hein. Il met pas ça juste pour le décor, mais c'est vraiment, il se sert de tout, il en met partout. Pour compléter le quintet, le deuxième guitariste s'appelle Adrian Smith. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Voilà, c'est pas obligé d'ailleurs. Il y a eu un deuxième second guitariste majeur qui s'appelait Johnny Gers, qui est venu quelques années après. Et en fait, maintenant, depuis pas mal d'années, en fait, ils jouent tous ensemble. Donc finalement, ils sont trois guitaristes maintenant à jouer sur scène, ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue musical pour les concerts. On va maintenant passer au quatrième titre que je voulais vous proposer sur cet album, un morceau qui s'appelle « The Number of the Beast ». The Number of the Beast, alors c'est un morceau phare du troisième album d'Iron Maiden, et d'ailleurs un album qui porte le nom The Number of the Beast. C'est, je pense, la chanson la plus connue du groupe, et c'est aussi, alors assez tristement, une chanson qui a valu au groupe des accusations de satanisme. Alors c'était très très courant dans les années 80, enfin dans les années 70 déjà, 80, ça continue encore un petit peu maintenant, d'accuser les groupes de heavy metal de satanisme. C'est complètement ridicule. Alors c'est même allé certains loin, hein, pas pour Iron Maiden, mais par exemple pour Judas Priest, qui ont carrément été poursuivis en justice pour ça, hein, parce que sous prétexte qu'un adolescent qui écoutait ce groupe-là a mis fin à ses jours aux États-Unis. Alors c'est une image très négative du métal qui est véhiculée par des gens qui connaissent pas du tout cette musique, qui connaissent pas les groupes. Alors bien souvent, hein, quand on voit dans des festivals comme le Hellfest, quand on voit des vidéos sur YouTube, c'est une ambiance bon enfant, de gentils buveurs de bière, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Alors ils sont, oui, un peu lourdous et tout ça, mais le satanisme, pitié, quoi, qu'on arrête avec ces accusations, avec ce débat-là. Alors oui, c'est pas toujours vrai, hein, il y a eu des faits divers avec le black metal norvégien, mais voilà, vraiment des cas isolés, et en tout cas, c'est pas du tout vrai pour Iron Maiden. Bref, je refais cette parenthèse un peu désolante. À propos de live, j'ai vu Iron Maiden deux fois en concert. La première fois, l'année où je les ai découverts, j'y suis allé avec mon pote de promo en 1995, et la deuxième, donc 20 ans plus tard, en 2015. Alors j'ai un souvenir un peu mitigé pour les deux. Pour le premier concert, c'était pas Bruce Dickinson le chanteur, c'est à l'époque où il faisait une carrière solo, et il était remplacé par un chanteur qui s'appelait Blaze Bayley, qui était pas mauvais en soi, mais techniquement qui était vraiment en dessous de Bruce Dickinson. Bon, en même temps, comment dire, quand on cherche à remplacer Godzilla, on passe assez vite pour un petit lézard, quoi. Enfin, donc c'était un bon concert en soi, mais c'était pas le line-up que je voulais. Cela dit, voilà, c'était dans une petite salle, donc c'était intéressant pour ça. Il y avait un bon son. Faut quand même pas cracher là-dessus. Le deuxième concert en 2015, là, bah, c'était un line-up de rêve. Hein, pour moi, je voyais vraiment, vraiment le meilleur de Iron Maiden. Mais c'était une grande salle, c'était à Bercy, enfin à l'Arena à Paris. Donc un son pourri, j'étais placé assez loin de la scène, je voyais rien. Donc ça, c'était un petit peu décevant. Et surtout, j'étais assez déçu par la playlist, parce que les 5, 6, 7 premiers morceaux, eh ben, c'était exactement les mêmes et dans le même ordre que le Live After Death que je suis en train de vous présenter. Et ça, je trouve que c'est un peu décevant. Et d'une manière générale, je trouve que c'est un peu le problème de ce groupe, c'est qu'en concert, eh ben, on sait exactement ce qu'on va avoir. Les morceaux, c'est un peu toujours les mêmes, ils sont joués à l'identique, donc il y a beaucoup de tubes, mais finalement, pas de surprise. Même les solos, ben, on retrouve des plans identiques, il n'y a pas de créativité live en fait. Alors c'est bien joué, hein, le son est incroyable, la mise en scène est chouette, il y a des décors, il y a les mecs qui se donnent à fond, ça bouge dans tous les sens, mais il n'y a pas de surprise, quoi, il n'y a pas de relève. Et pour moi, bah, quand je vais voir un concert, moi je veux entendre autre chose que les disques, quoi. Donc pour moi c'est un petit peu décevant. Alors, à la décharge du groupe, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, ils avaient sorti un concept album, qui est un album un peu plus confidentiel, donc un concept album sur le thème de la guerre, et ils ont voulu le jouer en entier, comme c'est parfois le cas avec les concept albums. On aime bien les jouer en entier, de A à Z et dans l'ordre. Et en fait, ils ont été très critiqués à l'époque. Les fans voulaient des standards, voulaient des tubes. Donc finalement, pour les tournées d'après, bah, ils en sont revenus à cette formule de quelques titres phares qu'on joue un petit peu toujours pour faire plaisir au public. Alors beaucoup s'y retrouvent là-dedans, moi je ne juge pas, hein, je comprends même, mais moi, c'est pas ce que je recherche dans les concerts. Moi je veux du nouveau, je veux du titre visité, je veux des versions modifiées. Mais finalement, pour ce genre-là, pour le métal, eh ben, ça s'y prête pas. Autant pour la pop, oui. Pour le jazz, n'en parlons pas. Hein, c'est vraiment peut-être le genre qui s'y prête le mieux. Mais pour le métal, c'est peut-être pas très facile. Voilà. Donc c'est pourquoi Maiden, bah, pour moi, c'est plus un groupe que je préfère pour leurs albums studio que pour les lives. Cela dit, et je vous encourage à ça, Internet regorge de vidéos live de ce groupe, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir, parce qu'ils sont très très bons sur scène. Quand on les voit, bah, ils font plaisir à voir, quoi. Ils partagent leur amour de la musique, et c'est vraiment chouette pour ça. Alors, ils jouent encore, hein, malgré leur âge, ils ont entre 64 ans pour le plus jeune et 71 pour le batteur Nico McBrain. Ils jouent toujours, donc notamment cette année, je crois qu'ils ont encore joué au Hellfest et ils font encore des petites tournées. Moi, je trouve que c'est vraiment un spectacle, hein, comme Metallica, qui sont un petit peu plus jeunes, mais les Stones aussi, qui ont tourné pendant très très longtemps. Moi, je trouve que c'est toujours très impressionnant et très respectable. Allez, on passe au dernier extrait que je voulais vous faire écouter, la chanson qui s'appelle « Hallowed Be Thy Name ».
Yeah.
Alors ça, moi, c'est mon morceau préféré d'Iron Maiden sur cet album, sur tous les albums confondus. Voilà, c'est un morceau que j'adore pour son riff, sa mélodie, ses solos, sa structure, tout est incroyable. Vraiment, vraiment, j'adore. Les paroles, c'est un monologue intérieur d'un homme qui est condamné à mort et on entend ce qui se passe dans sa tête à quelques minutes de son exécution. Alors je me suis jamais trop plongé dans les textes du groupe, même d'une manière générale pour les groupes anglo-saxons ou dans d'autres langues, je m'intéresse assez peu aux textes au final. Mais juste, je voulais dire un mot, d'après les recherches que j'ai faites, Iron Maiden, ils puisent, alors comme beaucoup de groupes de métal, ils puisent leur inspiration dans le fantastique, la science-fiction, les mythologies, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi dans l'histoire. Et il y a aussi souvent des références littéraires assez fortes, alors notamment chez Edgar Allan Poe, Frank Herbert, Shakespeare, Umberto Eco, Aldous Huxley... tous ces auteurs un petit peu bah, autour de la voilà du fantastique, de la science-fiction. Et il y a aussi beaucoup de références cinématographiques et aussi dans les vieilles séries comme La Quatrième Dimension et puis la série Le Prisonnier aussi, qui a été très importante pour eux. Voilà, donc on va dire un champ d'inspiration assez large et assez intéressant d'un point de vue culturel. Avant de nous quitter, j'aimerais vous donner le top 5... enfin mon top 5 de leurs albums, si vous voulez découvrir un petit peu plus ce groupe. Dans l'ordre chronologique, très bon album pour moi, c'est Killers, le deuxième album, qui est sorti en 1981, alors qui a un son un petit peu jeune encore, c'est moins bien produit que les suivants, le son est un petit peu faible, on va dire. Par contre, les chansons, elles sont vraiment top, c'est très très bien joué, c'est carré, et c'est vraiment un très bon album. L'album qui a suivi, The Number of the Beast, incontournable, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'album peut-être qui contient le plus de classiques du groupe. 10 ans plus tard, Fear of the Dark, toujours pour les mêmes raisons, hein, très très bonne chanson, mélodie, qui est vraiment chouette, donc Fear of the Dark, je ne vais pas le commenter plus que ça. On arrive en 2000 avec Brave New World, toujours des chansons incroyables, et le retour de Bruce Dickinson, dans le groupe, le chanteur qui a arrêté sa carrière solo et qui a repris sa place de choix dans le groupe. Et encore 10 ans plus tard, on fait des bonds de 10 ans quasiment, The Final Frontier, pour l'album pour moi le plus intéressant dans les dernières années. Alors sinon, il y a deux albums qu'il faut absolument éviter, No Prayer for the Dying en 90 et Virtual Eleven en 1998, voilà, deux albums que je trouve vraiment pas intéressants. Pour conclure sur le Live After Death, vous l'avez vu, c'est pas mon album préféré, mais c'est l'album par lequel je suis entré dans la discographie d'Iron Maiden. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode d'Estival, que j'ai voulu un petit peu plus court que d'habitude, c'est volontaire. J'ai pas eu envie de vous assommer avec ça. J'espère que vous passez tous un bel été. Merci de m'avoir écouté, merci de partager cet album et de parler du podcast autour de vous. Merci aussi à mon pote Sylvain, je sais pas si tu m'entends un jour, Sylvain que j'ai pas revu depuis la fin des années 90 et qui a ouvert mes oreilles à un champ musical incroyable. Voilà, je sais pas si tu m'entends Sylvain, mais sache que je te remercie. Je reviendrai avec des potes et des albums en septembre, avec quelques épisodes déjà prévus, de belles découvertes en vue, je l'espère. Et d'ici là, bonne musique à tout le monde. Ciao !